Monsieur le Président, Madame, Monsieur.
Les procès du siècle.
Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSAM.
My life belonged to that struggle.
Saison 2. Féminisme, genre et minorité.
Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle ouvrent un espace d'échange citoyen.
Après une première saison consacrée aux questions environnementales, nous dédions cette deuxième saison aux minorités dominées et à leur manière de s'exprimer, de résister, de revendiquer leurs droits.
Et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins.
Les procès du siècle, saison 2.
Féminisme, genre et minorité.
14 épisodes enregistrés dans l'auditorium du MUSEM.
Épisode 7. Les invisibles. Une parole collective suit-elle vraiment ? Avec Mohamed El-Khatib, Philippe Pujol et Toufik Hakem à la modération.
Bonsoir tout le monde, merci d'être venus nombreux. Donc aujourd'hui, l'intitulé du procès c'est Les Invisibles, une parole collective impossible. Mais qu'est-ce qu'on appelle les invisibles ? C'est quoi les invisibles ? Le concept des invisibles est apparu aux États-Unis dans les années 50 dans son roman Homme invisible, pour qui chantes-tu ? Paru en 1952, l'écrivain afro-américain Ralph Ellison met en scène dans le sud des États-Unis un narrateur noir anonyme confronté à sa propre transparence aux yeux des Blancs. Dans les décennies d'après, les sociologues et les psychologues ont utilisé le terme des invisibles pour évoquer des groupes aussi divers que les travailleurs étrangers, les pauvres, les handicapés, les domestiques, les minorités ethniques ou religieuses, bref, ces gens dont on ne parlait jamais ou presque dans les médias et qui n'étaient pas ou que très peu représentés dans les institutions. Alors aujourd'hui, on aimerait dire que les choses évoluent, que les invisibles d'hier le sont beaucoup moins aujourd'hui. Le combat des minorités, l'éruption du mouvement des Gilets jaunes ont fait bouger les lignes. C'est certain, mais est-ce que c'est solide ? Et surtout, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que la prise de conscience s'accompagne de changements profonds dans la société ? C'est le sujet de cette séance avec deux invités de marque, l'auteur, metteur en scène et réalisateur Mohamed El-Khatib, qui a mis en scène dans ses spectacles, ses films et performances des émigrés, des femmes de ménage, des agriculteurs, des gardiens de musée, des supporters des foot, bref, des invisibles. Et on a avec nous aussi le journaliste, écrivain et documentaliste Philippe Pujol de Marseille, qui lui aussi s'est intéressé aux précaires. Donc j'appelle à la barre, sous vos applaudissements, Mohamed El-Khatib et Philippe Pujol. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être vous donner tout de suite la parole. C'est quoi pour vous un invisible ou les invisibles ? Et qui sont les invisibles d'aujourd'hui, Mohamed El-Khatib, pour commencer ?
Bonsoir. Les invisibles, pour moi, c'est le hors-champ. Et on est chacun en capacité de définir un champ. Et puis souvent, le hors-champ, c'est ce qui nous échappe par le biais de notre éducation, de notre regard qui est façonné par tout un tas de facteurs. Et je dirais que c'est ce qu'on a du mal à saisir et ce à quoi on ne fait pas attention. Et je crois qu'un des enjeux pour moi de l'invisibilité, c'est celle de la politique de l'attention, à quoi je décide de porter attention, malgré moi ou en prenant conscience.
Philippe Pujol, qui sont les invisibles d'aujourd'hui ?
Il y a beaucoup d'invisibles. C'est vrai que les invisibles, ça évolue au gré du temps. Les minorités visibles d'hier, c'était les invisibles, en fait, avant. Et pour moi, les invisibles, il y a une notion de marginalité immédiatement. Et donc, quand il y a la marginalité, les injustices sociales, il y a les problèmes d'équité, il y a les problèmes économiques, il y a toute une série de problèmes. Il y a un problème d'accès à des services publics simples, comme l'éducation, comme la santé, comme le travail, et qui va rendre une population invisible. Ça peut être pour différentes raisons, pour des raisons d'âge. Des fois, ce sont les adolescents qui sont invisibles dans certains secteurs. D'autres fois, ça va être une question d'ethnie, parce que moi j'aime pas utiliser le mot race, donc ça va être des questions d'origine qui vont faire ça, tout simplement le délit de faciès, hein, avoir un nom, avoir une tête qui fait que on va te stigmatiser. Et le paradoxe, c'est que le fait d'être stigmatisé va te rendre invisible socialement. C'est très visible justement par ton visage, alors peut-être un peu moins à Marseille, mais dans d'autres lieux. Et ça va te rendre invisible. Puis après, il y a pour moi, toute une chaîne d'invisibles. Et aujourd'hui, les nouveaux invisibles sont dans les quartiers populaires de Marseille, les populations de Comoriens, de Nigérians depuis peu, donc des appelons ça des migrants noirs qui viennent d'arriver et qui sont la plupart du temps dans des taudis, dans des squats. Et à part quand tu es un professionnel de ces gens-là, soit un observateur, soit pour les aider, ou alors même pour les exploiter, parce que ça existe aussi, à part cela, ben, pour la plupart des gens, pour l'opinion publique, ils vont rester invisibles.
Mohamed Khatib, vous voulez continuer à parler avec Philippe Pujol de sa définition des invisibles, de ceux qui l'étaient et ceux qui ne le sont plus ?
Non, c'est quelque chose de mouvant, en tout cas.
Ouais.
Et puis on est toujours l'invisible de quelqu'un, à différents degrés. On peut être invisible et représenter la moitié de l'humanité. Et il y a une autre facette quand on entend aussi invisible, c'est la question de l'absence, des absents. Les invisibles, ils sont absents. Et le pire, la plupart du temps, c'est qu'ils n'ont même pas conscience qu'ils sont absents. Et à ce moment-là, je trouve qu'une des responsabilités qui peut être la nôtre, nous qui accédons à un moment donné à un espace public, politique, médiatique, etc., c'est de faire attention à ces absents. Et à qui l'idée ne vient même pas de venir au MUCEM assister à un procès du siècle, par exemple. C'est-à-dire, c'est même pas quelque chose qui est dans le paysage. Et la plupart du temps, c'est que on court après une espèce de mixité sociale comme ça, a fortiori dans les lieux culturels. Mais on en oublie que bah, peut-être pour qu'il y ait des gens différents dans la salle, il faut qu'il y ait des gens différents sur scène. Et que la plupart du temps, je me retrouve dans des comités ou des espèces de commissions comme ça, on dit alors il faudrait mettre en place telle politique pour toucher tel public, et je me rends compte qu'autour de la table il n'y a absolument personne parmi les destinataires, donc on veut faire quelque chose pour les absents, mais on ne commence même pas par les inviter à la table de l'endroit où on va inventer des choses pour eux. Et puis cette chose aussi de vouloir faire pour eux de façon comme ça un peu paternaliste, or tout ce que vous faites pour les gens sans eux, d'une certaine façon vous le faites contre eux.
Alors, pourquoi vous avez fait le choix et pardon, Philippe Pujol voulait dire. Non, mais allez.
Non, mais c'est les invisibles, c'est comme ça. Mais c'est non. Il y a pour aller plus loin, pour prendre presque le contre-pied, en allant dans le même sens, c'est le contre-pied. C'est ce week-end, il y a eu à Félix Piat un grand concours de coupé décalé. Le coupé décalé, c'est une danse. Et ils font des battles, comme des battles de rap, des battles de coupé décalé. C'est pas ma cam du tout, hein. Ils sont 4000. C'est-à-dire que ce n'est plus nombreux que là. Et si on regarde, il n'y a personne du public ici qui serait au battle de coupé décalé. Et moi, j'y ai assisté une fois ou deux. C'est rigolo pour un journaliste, mais on me dirait d'assister à ça régulièrement. Ça serait de la souffrance pour moi. Mais pourquoi absolument vouloir les inclure dans nos visions culturelles, quoi. C'est-à-dire que on a tous envie, le MUCEM le demande, la CRIE le demande, comment faire venir, on me le demande sans arrêt, comment faire venir les quartiers populaires, comment faire sauter le verrou, le blocage psychologique qu'il y a dans les quartiers populaires. Automatiquement, là-bas, on va dire, c'est pas pour moi, c'est pour les Blancs, on te dit. C'est trop fort, d'ailleurs, c'est pour les Blancs. Ou c'est pour les Français, on me dit.
Mais Mohamed Khatib disait que c'est parce qu'ils étaient pas représentés sur scène.
Non, mais lui, maintenant, malgré son nom, malgré tout, le simple fait que ce soit un cultureux, c'est un Français, c'est un Blanc. Pour un minot des quartiers avec son blocage psychologique, je parle de cela, c'est un Blanc. Même un Black serait un Blanc. C'est-à-dire qu'on est des Blancs sociaux au bout d'un moment dans leur jargon. Ça veut dire en gros que pour eux, quelque chose qui est culturellement un peu trop revendicatif est quelque chose d'écrasant. Ils voient ça comme une sorte de mépris de classe. C'est très très compliqué, quoi. Il suffit pas de faire venir deux rappeurs ici pour avoir les rappeurs ou deux danseurs de coupé décalé pour avoir Félix Piat qui vient, ça va pas marcher.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Ah ça, moi je suis pas capable de dire. Sinon je serais candidat pour être ministre de la culture. Mais j'ai failli l'être pour être maire de Marseille. Alors pourquoi pas, hein ? Mais ce qu'il y a, c'est que ça, il faut de toute façon aller vers un travail au long cours. C'est pas parce qu'à un moment il va y avoir une représentation avec une représentation de quelqu'un que ça va marcher du premier coup. Ça sera en bout de chaîne. Je vous donne un exemple qu'ont fait les Américains à Harlem. Il y avait un musée qui faisait quelque chose qui est assez courant, c'est-à-dire une exposition entre des photos d'artistes et des photos récupérées chez les gens. Et dans ce musée-là, ils mettaient les photos donc des gens du quartier d'hier et d'aujourd'hui. Ils ouvrent ça, personne ne vient. Bon, ils ont une idée à l'américaine. Les Américains sont très pragmatiques. Ils mettent sur le toit terrasse du musée, ils mettent un grand cœur, et le jour de la Saint-Valentin, on a le droit gratuitement de se faire prendre en photo devant le cœur du toit terrasse. Sauf qu'ils les font passer devant tous les trucs, comme dans les magasins Ikea, quand on vous oblige à marcher, ils ont fait pareil. Donc ils sont passés devant les photos en provoquant des files d'attente. Alors qu'il n'y avait pas de files d'attente, ils faisaient semblant de faire attendre les gens. Et les gens, en attendant, regardaient les photos, ils ont reconnu Tonton, ils se sont reconnus eux, ils ont vu quand ils étaient petits. Ils sont tous revenus. C'est des idées cons qui marchent comme ça.
Mohamed Khatib, est-ce que vous regardez le public qui vient voir vos pièces, par exemple ? Est-ce que vous vous posez cette question ? Est-ce qu'ils viennent, les autres ?
Bah, je fais que ça, et c'est pour ça que je suis en dépression. C'est-à-dire que au théâtre, vous pouvez travailler qu'à toute petite échelle. C'est-à-dire que la transformation, elle est infime. Vous allez chercher les gens un par un. Après, j'ai pu mesurer que lorsque sur les plateaux, vous commencez par traiter des questions qui, elles, sont invisibilisées, que ce soit la question coloniale, des questions sociales, etc., et que c'est pas la énième adaptation de Molière pour ses 400 ans, dès lors que vous ouvrez la porte à d'autres récits, sur le fond et sur la forme, alors vous touchez un nouveau public. Et vous touchez des gens, vous savez, c'est quasi mécanique. Et d'avoir travaillé longtemps avec des supporters de foot sur scène, d'un coup, j'ai jamais vu autant de gens qui venaient au théâtre pour la première fois. Et puis les supporters du bassin minier avec lesquels on a travaillé, d'un coup, parce qu'ils fréquentaient le théâtre de l'intérieur, parce qu'ils en avaient une pratique, parce qu'ils étaient sur scène, d'un coup, le théâtre était un lieu désacralisé. Et on pousse la porte plus aisément, parce que c'est intimidant. Et puis c'est aussi la succession de nos échecs. Je me souviens, il y a quelques années, on a travaillé avec des femmes de ménage, on a fait un spectacle. Et on avait passé quelques mois à Évry, et on avait pris en photo quasiment toutes les femmes de ménage de la ville. Enfin, pas toutes, mais en tout cas un nombre extrêmement conséquent. Et on avait fait une exposition, et donc on a fait un vernissage, et il n'y avait personne. Enfin, il y avait la DRAC, il y avait la région, il y avait toutes les tutelles culturelles. Donc en tant qu'artiste, on était extrêmement contents. Mais c'était un échec, je veux dire. Et à ce moment-là, Christophe Blandinès-Tourné, qui dirigeait ce théâtre, nous dit, mais c'est la question de l'adresse, c'est pour qui vous le faites, pour qui vous travaillez. Si vous voulez vraiment inviter les femmes de ménage à partager avec vous un moment joyeux autour de ces photographies, alors le vernissage, il n'est pas à 20h le soir, ça c'est bien pour la DRAC. Le vernissage, on va le faire de 7h à 9h du matin, avant d'aller à l'école, avant de déposer les enfants, ou juste après. Et on a fait un deuxième vernissage de 7h à 9h du matin, un vernissage petit déjeuner, et j'ai jamais vu autant de monde à un vernissage. Et donc ça a été pour moi une grande leçon de sorte. Poser en permanence la question du sens, pour qui on fait ça et à qui on s'adresse. Et dès lors qu'on est clair sur l'adresse, alors ensuite le reste, c'est de la mécanique. Quoi. Alors
Donc ça marche, vous êtes de moins en moins déprimé avec le temps.
Oui, à petite échelle. Mais ça a l'air de rien, faire un vernissage à 7h du matin. Mais dans des institutions, c'est un bouleversement, c'est une révolution. Parce qu'il y a tout un tas de... Ah bon, mais on va donc modifier les horaires de travaux. Ah bon, mais il faut que la sécurité arrive. Enfin, tout un tas de problèmes qui paraissent comme ça aberrants, mais qui sont extrêmement concrets. Or, si on se pose la question, mais à qui on s'adresse en permanence, en fait, ces choses-là devraient être anecdotiques.
Autre question, pourquoi avez-vous fait le choix, Mohamed Khatib, de vous intéresser aux invisibles ? C'est par solidarité de classe ou c'est pour d'autres raisons ?
Souvent on fait les choses, mais on ne sait pas toujours pourquoi on les fait, ou parfois on le sait après, rétrospectivement. Or, ma première pièce de théâtre, je peux le dire aujourd'hui, c'est un échec total. Elle s'appelle À l'abri de rien, quelque chose de très classique, avec des acteurs qui disent un texte, et dans le fond, les gens sortaient et disaient « Ah, mais c'est pas mal !» Et ça, c'est terrible quand on vous dit « Ah, mais c'est pas mal !» C'est que ça n'a absolument rien déplacé, et que c'est totalement inoffensif, et donc, moi qui étais contre le théâtre bourgeois, j'ai produit une œuvre qui ne déplace rien. Donc c'était... un échec total. Et puis, il se trouve que, sans doute, ce qui a été le basculement dans mon travail, c'est la mort de ma mère. Ma mère décède, et je décide de faire une pièce pour raconter ce deuil. Et donc, j'invite une actrice, d'abord, et puis je me dis, mais il y a quelque chose d'indécent. En fait, j'ai envie qu'on entende la voix de ma mère, qu'on entende la musique de sa voix, une voix qu'on n'entend pas sur les plateaux de théâtre. Or, je demande à une actrice un peu connue de venir faire ma mère. Et puis je mets de la musique, je me dis, tiens, j'ai envie qu'on écoute la musique de sa voix, mais je la recouvre de musique contemporaine, etc. Et donc, à partir du moment où j'ai lâché quelque chose à ce moment-là, c'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est strictement nécessaire ? Et est-ce qu'on va, une fois de plus, parler à la place des gens qui ne parlent pas ? et donc je vais demander à quelqu'un de parler à la place de ma mère. Et finalement, je me suis appuyé sur un enregistrement de ma mère, que je fais entendre dans le spectacle. Et à partir de là, j'ai arrêté de tous les intermédiaires, c'est-à-dire d'éliminer toutes les prothèses théâtrales ou tout ce qui fait écran à une parole qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Or, quand vous allez chercher une parole chez les classes populaires, c'est difficile, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de tendre un micro en disant « mais est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur... » Et c'est extrêmement violent. Et donc, ça demande du temps pour faire émerger une parole, de l'accompagner, pour écrire des projets. Et du coup, j'ai arrêté d'écrire pour les gens, mais je me suis mis à co-écrire ensemble, à inventer des expériences avec les gens. Et donc, ça s'est fait comme ça. Maintenant, je me sentais une forme de responsabilité, ou en tout cas, je ne voulais pas trahir mes parents. Où je me disais, chacune de mes pièces, il faut que mes parents puissent venir la voir.
Philippe Pujol, pourquoi vous vous intéressez aux invisibles? Mohamed Khatib dit pour... par fidélité à mes parents, vous diriez pour quelle raison?
Déjà, moi, je pense pas, là, ce soir, c'est les invisibles, mais moi, j'écris plutôt sur les marges, c'est mon approche est plutôt comme ça. Et avec un paradoxe, c'est que, au début, j'ai pas cherché à écrire là-dessus. Je venais de ces quartiers-là. J'ai eu cette culture-là. J'ai été, pour payer mes études, agent de sécurité. Pendant 5 ans, j'ai fait l'agent de sécurité. En fait, j'ai côtoyé un monde qui, quand je suis devenu journaliste, pourtant la Marseillaise, qui était pas non plus le grand capital, hein, c'était plutôt un journal communiste, très ancré dans les quartiers populaires. J'ai vu à quel point il y avait quand même déjà une méconnaissance de ces quartiers d'où je venais, une méconnaissance de ce que j'étais moi-même et encore plus de ce que pouvaient être d'autres. C'est-à-dire à partir du moment où on n'avait pas une revendication, on n'existait pas. C'est-à-dire qu'il fallait avoir une revendication en tant que syndicaliste, de migrant, une revendication sociale, mais sans revendication, c'est-à-dire l'immense majorité des gens, sans revendication formulée, il n'y avait pas d'existence. Et moi, on m'a nommé volontaire pour être fait diversier, c'était comme ça la Marseillaise. Et une fois que je me suis retrouvé volontaire, il a fallu que j'écrive sur les faits divers et très rapidement, je me suis rendu compte que souvent il y avait des typologies de faits divers et souvent il y avait ce que là ce soir on appelle les invisibles, que j'appelle les marges, qui étaient des victimes de quelque chose. Et donc c'est là que je suis allé un peu plus loin en prenant maintenant non pas simplement sur mon vécu mais sur un travail pour aller m'intéresser à ces gens-là.
Avec pour autant vous n'allez pas dire que c'est par hasard, il y a une solidarité de classe aussi assumée.
Absolument pas.
Est-ce qu'il y a une solidarité de classe?
Solidarité de classe totale. Une approche qui est pratiquement seulement une approche de classe. C'est-à-dire, j'ai vraiment très très peu une approche communautaire. Mais mon approche, elle est comme ça, avec plusieurs succès réguliers. Par exemple, j'ai régulièrement des jeunes et des moins jeunes, des quartiers populaires, qui me disent, oh, tu es le seul livre que j'ai lu. C'est-à-dire qu'ils considèrent déjà que je suis un livre, c'est pas vraiment ça. En fait, ce que je comprends dans « Tu es le seul livre que j'ai lu », donc il parle de la fabrique du monstre la plupart du temps, et ce livre-là, ça veut tout simplement dire que pour eux, c'est tellement impossible de lire un livre. Celui-là, on leur a mis dans les mains parce qu'on parle du dealer qu'ils connaissent, parce qu'on parle du mec qui s'est fait buter qu'ils connaissent, etc. C'est des choses très concrètes qui font qu'au départ, ils ont pris ce livre. Et finalement, ça a pris, parce que c'est comme ça ressemble à une bonne série télé. Hein, c'est ce qu'ils me disent souvent, d'ailleurs. On lâche plus, c'est une vraie série, tout ça.
Et vous l'avez écrit comme ça aussi.
Mais ils me disent que je suis un livre. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent s'adresser à moi directement. Moi, je suis abordable. Qu'un livre, c'est pas abordable. Donc ils disent, t'es le seul livre. Ce qui me va bien comme appellation. Mais ça vaut un prix Albert Londres, quoi. Ça prouve que ça a marché, quoi.
Et mérité. Vous êtes parti de vos parents, c'est-à-dire de l'intime. Vous êtes parti de votre communauté, mais pour vous intéresser à tous les invisibles. Vous avez fait un travail, par exemple, avec les gardiens de musées. Comment vous avez eu cette idée? Pourquoi ce travail autour des gardiens de musées?
Parce que je les fréquente assidûment et je me suis rendu compte qu'un des angles morts dans le dispositif muséal, c'est ceux qui travaillent réellement dans les musées.
Vous avez fait le tour du monde, hein, des musées.
Mais c'était pour vérifier que d'abord, que ceux qui travaillent le plus dans les musées, ce sont les gardiens. Et puis, que cette cheville ouvrière du dispositif muséal, c'est la plus négligée socialement, sur le plan salarial. Et puis surtout en termes de mépris, et là ça rejoint chacun d'entre nous, c'est-à-dire chacun des visiteurs possibles. Et l'idée, c'est, je voulais d'une certaine façon vérifier si ce mépris était... alors je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais il est mondialement partagé. ce mépris à l'endroit des gardiens, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont à 50 cm d'une œuvre et auxquels, la plupart du temps, vous ne dites pas bonjour, au mieux. Et au pire, c'est vous dites à vos enfants, surtout si tu travailles mal à l'école, tu vas finir comme le type là, assis sur une chaise. Et puis symboliquement, alors que vous êtes à côté d'œuvres extrêmement valorisées symboliquement, votre métier est inversement proportionnellement déprécié. Et c'est extrêmement violent pour les gardiens. Donc c'est comme ça qu'est née cette enquête en disant, mais finalement, si on s'intéresse aux œuvres, si on s'intéressait aux gardiens, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire des œuvres, et puis de nous en tant que visiteurs, en tant que pratiquants du tourisme culturel. Et puis je leur demandais souvent, mais quelle est la nationalité la plus méprisante? Et alors ici en France, on disait beaucoup les Russes, par exemple, ou les Chinois. Mais dès que vous êtes à l'étranger, ce sont les Français qui arrivent en numéro un.
Philippe Pujol, vous voulez...
Moi, quand j'étais agent de sécurité, j'ai connu ça. Et en plus, comme je baragouinais un peu d'anglais, on me mettait aux loges parce que je faisais sécurité dans les concerts, dans tout le sud de la France, notamment au Dôme. Donc j'ai fait tous les Johnny, j'ai fait à peu près tout ce qu'il y a eu entre 95 et 2000 qui est passé dans le coin, j'ai fait. Et donc j'ai plein d'histoires, et notamment le fait surtout de patienter 12 heures debout, sans, à l'époque, on n'avait pas le droit de fumer, pas le droit de, il n'y avait pas de portable, on avait le droit de rien. Et ça prend la patience. Aujourd'hui, je suis d'une patience phénoménale, c'est lié à ça. Quand on a passé 12 heures debout, sans que personne ne te dise jamais rien, on ne te parle jamais. Et quand tu te retrouves dans la loge de Johnny pendant 13 concerts, ben Johnny, je peux en parler beaucoup. Je vais pas trop le faire au cas où il y aura des fans. Je vais en rester là. Mais tu n'existes pas. Tu n'existes pas au point que quand ils se bagarrent avec Vincent Lindon, je suis dans la place, dans la salle, et ils savent même pas que je suis là. Donc je finis par les séparer, mort de rire. Et ils ne voient même pas mon existence. Je n'existe pas. Donc voilà, il y a que Tina Turner qui m'a vu et qui m'a parlé. J'étais extrêmement content que Tina Turner me parle directement. Elle voulait savoir où étaient les toilettes.
Philippe Pujol, dans votre dernier documentaire, Péril sur la ville, donc vous l'avez dit, vous filmez un des quartiers les plus pauvres de Marseille, peut-être même de France, Saint-Mauron et ses habitants. Alors c'est pas un extrait qu'on va voir, mais plutôt une séquence que vous n'avez pas pu garder dans le montage final. On regarde, après vous en parlez.
Moi, ma mère, je veux des armes. Qui passe dans la main si je mourrais. Là-bas sur le fond de l'armée, mon souvenir s'éteint comme un poussé. Rappelle-moi de Z, c'est la Wandoua, Gaza, Chiliza, Mwanta, Bahoua, Lenibak, Toshinda, Wari, Lunga, Fangamur, Kusi, Helewa, Sikanova, Sikanova, Mana, Swali, Sashitwa, Mimi, Mwana, Mgazi, Jatsi, Wasili, Faranza. En Saint-Mauron, à Marseille. Et bon, moi, je suis né à Mayotte, je suis grandi à Mayotte. J'ai fait ma vie un peu Mayotte, mais un peu galère. Je suis descendu aux Comores de voir ma famille, de ma mère. Je monte chez ma mère, je vois des armées qui passent dans la mer si je mourrais. Là-bas, sous le fond de l'armée, mon souvenir s'éteint comme en poussière. Mais moi, pourquoi Gaza, c'est comme ça? Big, Hassan, ZZ et Asni. Parce qu'on était quatre... comment dire, on était très amis, mais Hassan, il a pété les plombs. Parce que c'est lui qui nous donnait les drogues, fumer, tout ça. Big, Hassan, Zachi, Asni. Tu vois, on était quatre dans un ghetto qui fumait, qui buvait, on était tout le temps ensemble. Gaza, Chiliza, Mwamza, Barwa. Gaza, on est tout fait de hala, mais arrête petit. Gaza, Chiliza, Mwamza, Barwa. Comme s'il y a des petits qui veulent faire ce que j'ai fait, mais je lui ai dit arrête. Après, ma mère m'a fait venir ici en France. Mais moi, j'avais un oncle, mais il n'y avait pas de papier. Mais moi, j'ai de papier normal. Et la maison qu'il avait habitée, il y avait des problèmes de maison. On nous a fait sortir. Et moi, je suis venu un peu chez ma tante. Ici, c'est ma tante.
Philippe Pujol, c'était quoi le but d'ailleurs? Pourquoi vous avez fait ce documentaire?
Est-ce que c'était...
Bah, moi, j'ai grandi là. C'est exactement mon quartier. Et donc là, la particularité, c'est que c'est un personnage qui n'est pas dans le film, parce que le film qu'on m'avait commandé était de 52. J'ai réussi à gratter 56 minutes. C'était un combat sans merci pour avoir 4 minutes. Et j'avais une version de 140 minutes. Donc, il a fallu... enlever beaucoup de choses, et j'ai notamment enlevé ce personnage, qui est déjà un invisible, mais moi je l'ai doublement invisibilisé, parce que j'ai supprimé carrément de mon film, Assaini, qui est de Mayotte, c'est pour ça qu'il a les papiers, les Français, et qui vient ici, j'ai fait court, parce qu'on avait beaucoup de choses sur lui, il a une femme, un enfant, qui est resté là-bas, et il travaille dans le bâtiment pour les aider, il est chez un marchand de sommeil, comme on a vu là, avec le tout ce qui peut s'effondrer sur lui, donc c'est la vie de beaucoup de gens dans ce quartier. Mon regret dans le film, c'est que justement j'avais enlevé complètement ce dans le film final, celui qui va être à Arte, il y a plus cette vision de gens qui vivent dans des taudis, alors que je l'avais filmé, mais il fallait faire un choix, et Assaini, comme il n'était relié à aucun autre personnage, parce que justement il n'essayait pas de se relier, ben c'est lui que j'ai fait disparaître du film pour des raisons techniques presque, je dirais, et je vous ai fait un montage vite fait juste pour aujourd'hui, mais le but pour moi c'était de montrer ce Marseille qui existe, qui est dans le troisième arrondissement, en plein centre-ville de Marseille, et où on le voit dans le film, il y a des jets d'eau qui sont lancés pour se rafraîchir de façon illégale, mais bon, c'est pas bien méchant. Il y a la problématique de l'habitat qui est omniprésente, et en même temps, c'est pas ce qu'ils ont en tête tout le temps. Eux, ils vivent dehors, c'est encore des gens qui vivent dehors. L'espace public est encore totalement habité par des enfants. Attention, ce que je filme, parce que je me suis rendu compte en fin de tournage qu'il y a des petits là qui sont sortis d'un coup, et j'ai dit, mais je t'ai jamais vu toi. Il me fait, non, j'ai joué à la play. Tout l'été, il a joué à la play. Bon, il faisait 20 kilos de plus que les autres, et ils ont fait un été complet de play. Je ne les ai même pas vus en restant un été complet là-bas.
Quelles sont les questions que vous
Il y a toujours des invisibles, quoi.
Alors, justement, quelles sont les questions que vous êtes posées pour filmer ces invisibles? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait éviter? Est-ce que, à un certain moment, vous étiez confronté à ce genre de questions?
Oui, par exemple, l'hyper-misère, la misère vraiment extrêmement lourde, on l'a pas montré. Elle était, j'avais peur qu'on me, déjà, on me l'a plus ou moins reproché, mais là, on serait allé plus loin. On m'aurait dit, tu esthétises la misère, t'en fais quelque chose de beau. Et c'est vrai que, comme on essayait de bien filmer les choses, de Steve, celui qui filme, est très bon, on essayait de bien penser les choses. Et c'est vrai qu'il était très facile, par exemple, de filmer des gens qui vivaient parmi les rats. Et ça, je l'ai pas mis dans le film. Parce que je me suis dit, au bout d'un moment, on atteint à leur dignité. Dire, j'essaie d'être toujours sur le fil. C'est-à-dire, cette dignité, des fois, on est limite, hein, j'en suis conscient. Je me mets au maximum de ce que je peux faire.
Vous avez fait un casting, par exemple. Est-ce que vous avez choisi ce jeune homme en disant, il passe très bien à l'image?
Non, je suis allé dans la rue et j'ai regardé. J'ai eu une sélection de jeunes gens avec qui j'ai parlé. Je cherche surtout les histoires plutôt que les gueules. Je cherche des choses à dire. D'ailleurs, dans le film, il y a une dame qui s'appelle Elisabeth Lacroix. Et qui est absolument pas le physique qu'on passe même pas dans les documentaires. Petite dame, pas de dents, petite mémé, on les met pas dans les documentaires, ces gens-là. Et moi, comme elle était extrêmement intéressante, j'ai pas cherché à savoir si elle passait bien ou pas. À côté de ça, il y a des gens qui ont un charisme fou dans le film, mais de la même manière, je les ai pas sélectionnés. Par contre, évidemment, vu la quantité de personnes qu'il y avait, j'ai fait des choix. Donc j'ai fait des choix. Déjà, j'ai filmé du monde, et dans ce monde-là, en plus, j'ai fait des choix. Mais par exemple, j'avais deux gamins, qui, notamment un qui s'appelait Jonathan, qui avait des moustaches, un gitan, qui était magnifique, qui était un ancien cambrioleur, qui m'avait dit qu'il avait arrêté et qui était très très bon. Et Jonathan, juste avant de démarrer, part en prison. Donc lui, après, il est sorti, parce que le film est fait, après il sort un an après, il est sorti à ce moment-là, il me dit, on fait le film. J'ai dit, Jonathan, c'est fini. Et c'est dommage pour lui, parce que lui, il espérait que le film fasse quelque chose. Bon, ça, c'est une illusion qu'ils ont, hein, que le film va les aider à être acteur, ça n'arrive jamais, hein. Mais voilà, donc il n'y a pas un casting, mais il y a des choix en fonction des histoires de chacun et ce qu'il représente.
Vous posez souvent cette question, Mohamed El-Khatib, comment à partir d'un vécu, d'une situation sociale très dure, comment parler des précaires dans une œuvre d'art, dans une pièce de théâtre, dans un film, dans une exposition de photos, pour une performance?
D'abord, au moment où je le fais, j'essaie de ne pas me poser de questions. C'est-à-dire d'être le plus spontané possible, et laisser le hasard faire les choses, les rencontres. et je ne fais pas de casting, par exemple. Quand on a travaillé avec Yoann Lamoulaire, hein, qui est ici, avec les supporters de Lens, du Racing Club de Lens, on est dans le bassin minier, taux de chômage 90%, une misère sans nom, c'est pas le prolétariat, c'est le lumpen prolétariat, on est au bas du bas, une misère sociale sans nom. Et je me disais, là, il y a des gens qui sont relégués, qui sont exclus socialement, et moi, je vais venir, et donc je vais faire une sélection, toi oui, toi non, je vais ajouter de la relégation à la relégation. Et donc j'ai pris tous ceux qui voulaient participer au projet. Et ce qui fait que sur le spectacle, on est 58. Et sur scène, il y a 58 personnes. Et souvent, on me dit, ah, mais est-ce que tu voulais, comme ça, donner un mouvement, un élan collectif? J'ai dit, non, c'est juste que j'ai pas osé dire non. J'ai pas voulu dire non. Ça me mettait mal à l'aise. Et donc, sont présents sur scène tous ceux qui voulaient participer à un spectacle ou qui ont accepté de participer à un spectacle. Et puis, se pose toujours la question de l'instrumentalisation. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'instrumentaliser, comme ça, les classes populaires en montrant la misère, etc.? Et auquel cas, je me dis, je renvoie toujours à la question du consentement. C'est-à-dire, au nom de quoi, le premier réflexe qu'on a, lorsqu'il s'agit des classes populaires, c'est que leur consentement ne vaudrait rien. Donc, ils acceptent de faire un spectacle avec moi, mais ils sont trop cons pour imaginer qu'ils vont être utilisés, etc. Donc, il y a cette question de l'instrumentalisation que j'interroge. Et puis, il y a celle qui a un indicateur extrêmement concret, c'est celui de l'argent. C'est-à-dire que systématiquement, je paye les gens avec qui je travaille, y compris quand ils sont amateurs, y compris quand ils sont non professionnels. Et pour moi, c'est un indicateur important, ce qui fait que lorsque vous mettez en place une politique salariale sur un projet de création, vous devez être en capacité d'expliquer, de justifier des différences. Et qu'est-ce qui justifie que quelqu'un travaille deux jours et qu'il soit rémunéré X euros, et puis quelqu'un travaille également deux jours, sous prétexte qu'il n'est pas professionnel, il serait rémunéré beaucoup moins. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ce qui fait que j'ai du mal avec les projets comme le Quai de Ouistreham, par exemple.
Eh ben justement, on connaît bien sûr l'histoire, le livre et l'enquête de Florence Aubenas, et comment il a été adapté. Moi, j'aime beaucoup ce film, et je pense que plein de gens ne seraient pas allés voir ce film s'il n'y avait pas Juliette Binoche. Et en même temps, le fait que Juliette Binoche soit au milieu de véritables gens, de véritables invisibles, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça vous gêne, cette démarche, Mohamed Khatib?
Si vous voulez, dans l'absolu, pas grand-chose me gêne. J'ai envie de dire, d'une certaine façon, tous les moyens sont bons pour rendre service aux invisibles. Mais à condition que vous leur rendiez service. C'est-à-dire que traiter le sujet des invisibles, en l'occurrence des femmes de ménage, à Ouistreham, dans le ferry, bon, admettons, ça peut être une expérience esthétique, ok. Mais alors, pour moi, ça n'a d'intérêt que si les personnes avec lesquelles vous travaillez, à un moment donné, vous les rémunérez correctement. Et vous leur permettez, le temps de cette parenthèse, pas seulement de venir vous servir, et puis après disparaître.
Ça n'a pas été le cas ?
Ça n'a pas été le cas. Et puis, il y a les écarts de salaire qui me posent problème, c'est-à-dire entre le cachet de Juliette Binoche, je trouve quelque chose d'indécent. Et je trouve que c'est indécent, mais de la même façon, je trouve indécent, en fait, quand Vincent Lindon fait le militant syndical... C'est tout à fait personnel, je n'y crois pas.
Chez Brisé, ok.
Je n'y crois pas, et donc je vois l'acteur faire sa partition, je me dis très bien, c'est un formidable acteur, mais pour moi, ça ne sert ni la cause, ça ne sert ni les gens qui sont là, et la façon dont c'est fait, la plupart du temps, ce sont des enjeux de production sur le plan financier, et puis la façon dont on accompagne les gens, c'est-à-dire le suivi qui est fait après. C'est-à-dire, c'est comment une production accompagne les gens sur le plan éthique, et comment on ne les abandonne pas, ces gens. Après leur avoir fait miroiter ces expériences, comment on ne met pas en place derrière quelque chose qui les accompagne sur la durée?
Mais vous le faites avec les gardiens de musée, avec les supporters de Lens, avec tout le monde. C'est quasiment impossible, Mohamed Khatib. Même si ça part d'un bon sentiment, à un certain moment, c'est...
Non, ça dépend ce que vous mettez en place. Moi, les supporters de foot, en l'occurrence, on travaille ensemble depuis 2017. On est en 2023 et on travaille encore ensemble jusqu'en 2025. Mon premier spectacle, elle s'appelait Corinne Dada, elle était femme de ménage. C'était en 2012-2013, je crois. Et l'engagement que j'ai pris, mais que je n'ai jamais annoncé formellement, c'est que depuis 2012, elle participe à tous mes spectacles ou un spectacle sur deux. C'est-à-dire qu'il y a une forme comme ça de compagnonnage. Ce n'est pas simplement une femme de ménage qui a été utilisée à un moment donné pour une production théâtrale, mais on crée une relation. Alors pour moi, elle fait partie des compagnons de route. Au même titre que Alain Cavalier revient sur différents projets, Corinne Dada, au même titre qu'Alain Cavalier, revient sur différents projets. À chaque fois que je peux glisser un rôle quelque part ou la faire apparaître, etc., elle rejoint, elle fait partie pour moi du collectif dans lequel je travaille. Et je trouve que c'est de notre responsabilité, c'est-à-dire on ne peut pas se servir comme ça, d'une certaine façon, des gens, en tout cas à petite échelle, c'est le cas pour le théâtre, on peut se le permettre. Mais, et puis, vous n'êtes pas obligé d'être tout seul, c'est-à-dire qu'il y a des équipes avec lesquelles vous travaillez, il y a des équipes de production, etc., et qu'on devrait penser l'accompagnement des gens au même titre qu'on pense la structure du spectacle, la structure du film, et ce n'est pas les moyens qui manquent, en tout cas dans le cinéma de fiction.
Merci beaucoup, Mohamed Khatib. C'est le moment d'appeler le premier témoin, ou plutôt une première témoin, à la barre.
Bonsoir. Un tout petit mot préliminaire pour vous dire que les témoignages qui sont présentés lors des procès du siècle sont issus d'un travail collectif en atelier qui se tient tous les dimanches, la commission d'enquête. Hier donc, une quinzaine de personnes se sont retrouvées pour ouvrir ensemble le sujet débattu ce soir et préparer des témoignages et des arguments qui donnent à entendre des points de vue multiples au croisement de l'expérience vécue, de la réflexion et de la fiction.
Bonsoir, je suis Mouna, j'ai participé à la commission d'enquête d'hier et ce soir, devant vous, je serai une jeune femme d'une trentaine d'années. Je m'appelle Marilyn. Je voudrais d'abord vous raconter qui est ma mère. Ma mère est une personne discrète. Ma mère est arrivée en France en 1980, à Marseille. Elle était souvent seule, elle galérait, mais elle s'est débrouillée comme elle pouvait. Très jeune, voire toute petite, ma mère nous a demandé à mes sœurs et moi d'être discrètes, de ne pas nous faire remarquer, d'être bonnes à l'école, de ne pas faire de vagues et de garder notre fierté. À 17 ans, pour gagner un peu d'argent de poche, elle m'a proposé de faire des ménages avec elle dans le sud de la ville. Il faisait chaud, c'était l'été, c'était fatigant, mais j'étais contente de passer un peu de temps avec elle et de gagner cet argent de poche. Un jour, nous finissions de nettoyer une cage d'immeuble et une résidente a laissé son caniche faire ses besoins devant nous, juste là, comme ça, alors que nous venions de terminer, que le hall était fraîchement lavé. Cette dernière nous a ordonné hautainement de nettoyer, en menaçant ma mère d'appeler son responsable si on ne le faisait pas. Je me souviens que j'ai regardé ma mère, à la fois choquée, un peu outrée. Mais comme on ne fait pas de vagues, comme on veut être discrète, ma mère s'est exécutée. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Je travaille dans un bureau en tant qu'RH, dans une grande boîte. Et moi aussi, j'ai été discrète. Moi non plus, je n'ai pas voulu faire de vagues. Puis un jour, face à une injustice et certainement un peu de frustration, j'ai dit non. Je n'ai plus caché qui j'avais envie d'être et j'ai arrêté de me fondre dans le moule. Aujourd'hui, j'ai compris qu'accepter d'être discrète, c'est accepter d'être invisibilisé. C'est être seul. C'est être amputé de la force d'un collectif. Je pensais qu'être discrète pouvait aider les gens comme moi et faciliter leur intégration dans le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai compris qu'en arrêtant la discrétion, on gagne de la considération et du respect. S'en affranchir à bon escient, c'est gagner une liberté, gagner des droits et s'offrir le soutien et la voix d'un collectif et pouvoir un jour porter la voix pour les autres. C'est faire partie de la société, c'est exister en tant qu'individu. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, merci pour ce témoignage. Vous avez fait un film sur votre mère qui était femme de ménage, Mohamed Khatib. Est-ce que cette notion de ces parents qui eux-mêmes demandent à être invisibles, c'est quelque chose que vous avez connu, que vous avez ressenti et que vous avez eu aussi à cœur d'essayer de comprendre pour restituer ça dans une œuvre d'art, dans une pièce, dans une exposition ?
En tout cas, je l'ai subi au point de le faire subir à ma sœur pendant des années. Qui parlait un peu plus fort, ma sœur qui parlait un peu plus fort, qui était tout sauf discrète. Et je trouvais longtemps, je me disais, ah, quand même, c'est pas très élégant. Mais qu'est-ce que c'est que ce concours d'élégance, quoi? Au nom de quoi? Dans quel moule on voulait se fondre? Pourquoi il fallait se faire discret par rapport aux voisins, etc.
Ça, c'est un héritage de vos parents?
Ça, c'est un héritage. C'est un héritage terrible, quoi. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est une façon d'être muselé. De ne pas faire de vagues, de ne pas faire de bruit, y compris quand vous n'êtes pas d'accord. Et ça, c'est dramatique parce que ça se partage sur des générations. C'est-à-dire que le fait d'être à l'aise, et je le vois encore parfois maintenant, quand j'arrive dans. Il y a des endroits où vous n'êtes pas à l'aise. Or, les gens qui ont de l'argent sont à l'aise partout. Et ce sentiment d'être à l'aise partout, c'est quelque chose qui s'hérite et qui se transmet de génération en génération, comme la pauvreté. Et j'entends pauvreté, je ne parle pas de la pauvreté au sens de précarité, mais de la chose qui fait que vous reproduisez ce que vos grands-parents ont transmis à vos parents, qui vous ont transmis, à tel point qu'il n'y a même pas besoin de le nommer, d'une certaine façon, vous fondez dans ce moule de discrétion et que vous baissez la tête. Alors heureusement, parfois, certains sortent de cette trajectoire. Et cette trajectoire, la plupart du temps, c'est quand ce sont les rencontres, ce sont les cercles politiques. Je pense au Parti communiste, en l'occurrence, au cours du soir, à une période où les cours du soir à l'usine, ça recréait une communauté, ça redonnait de la dignité aux gens, et ça permettait de pouvoir dire non, voilà, d'apprendre à dire non. Et d'avoir vu mon père comme ça sur un piquet de grève, etc., ça a été une fierté, mais avant d'en arriver là, ça a été long, le processus a été long.
Et aujourd'hui, par exemple, est-ce que Philippe Pujol, vous avez rencontré à Saint-Maurent des gens qui veulent rester invisibles?
Mais ils n'en sont pas conscients, en fait. Mais puisqu'il y a un usage politique de l'invisible de deux manières différentes, on entend souvent parler au moment des élections de la majorité silencieuse. C'est super ça comme terme, parce qu'en fait, on parle, on ne sait pas de qui, de personne, et on a un usage, chacun va utiliser ce groupe potentiel d'électeurs, de majorité silencieuse. Et c'est hyper pratique. Et de l'autre côté aussi, on a les gens qui seraient susceptibles de voter, et qu'on a dégoûté du vote, ou qui aujourd'hui sont éloignés du vote, donc particulièrement les quartiers populaires. Et aujourd'hui, c'est des gens qui votent plus du tout, qui sont loin de toute citoyenneté, avec un paradoxe, c'est qu'en ne votant pas, ils se suicident, puisque les autres votent. Et cette invisibilité, donc, est bien pratique. On maintient une manière de faire que ces gens-là ne se sentent pas dans des groupes, surtout plus de syndicats, pas de groupes, comme disait notre témoin, pas de groupe, donc pas de sentiment d'une quelconque appartenance, pas de lutte. Parfait, tu peux rester invisible tranquille. Et ces gens-là n'ont même pas le sentiment d'être invisibles. On les a tellement invisibilisés qu'ils n'ont même pas cette notion-là. Ils sont dans une survie, quoi, quelque part sociale, on va dire.
La dernière fois où on a parlé justement des invisibles d'une manière qui dépasse un peu le cercle des journalistes ou des sociologues, c'était pendant la crise du Covid, quand on parlait des soignants et des soignantes. Et justement, à cet effet, je voudrais vous présenter une pièce à conviction. C'est une pièce du musée. Et j'appelle d'ailleurs pour présenter cette pièce du musée Elia Pockner. Bonsoir, conservatrice du patrimoine et responsable du pôle art contemporain ici au MUCEM.
Bonsoir. D'abord, je voulais dire que le MUCEM est l'héritier du Musée national des arts et traditions populaires. Donc, une de ses spécialités, c'est de montrer des objets qui sont souvent invisibilisés là aussi et pas seulement des œuvres d'art. Moi, je m'occupe d'art contemporain. Alors, comment on fait? Parce que l'art contemporain, c'est souvent la scène de la visibilité. Eh bien, on choisit des œuvres comme celle qu'on va vous montrer ce soir. C'est une vidéo d'une artiste née à Casablanca en 1969 qui s'appelle Iman Fakir. Et la vidéo elle-même s'intitule « Taking Care » et se déroule dans les coulisses de la Timone.
Gelée. Thank you.
On voit les gestes, on ne voit jamais les personnes.
Exactement. C'est peut-être la manière la plus efficace de dire l'invisibilité. Une invisibilité qui a un peu changé avec le Covid, mais dont il était grand temps qu'on en parle. Mais ce qui est intéressant là aussi avec l'artiste, c'est qu'elle collecte des gestes à la manière d'une ethnographe. Et moi, ce qui m'intéresse là aussi, c'est qu'on voit dans ces processus opératoires, parce qu'on est dans des blocs opératoires, que les gestes sont extrêmement contraints. Donc c'est finalement aussi une mécanisation du corps à laquelle on assiste. Après, là aussi, le paradoxe, c'est qu'au cœur du soin, au cœur de l'hôpital, ces gestes sont quand même aussi la condition, tout mécanisé qu'il soit, la condition du lien à l'autre et du soin prodigué à l'autre. Dernier point, elle-même s'efface, il n'y a pas de voix off, son geste artistique à elle, c'est finalement de devenir invisible, mais pas invisibilisé, pas invisible. C'est pas une invisibilité subie, c'est plutôt l'invisibilité d'un témoin qui du coup devient capable de transmettre et de montrer.
Merci beaucoup, merci Elia. Merci à vous, merci Mohamed Khatib, merci Philippe Pujol, merci Elia Pockner, conservatrice du patrimoine, responsable du pôle art contemporain au MUCEM. Merci aussi à vous d'être venus et à la semaine prochaine pour le prochain débat. Je vous rappelle le titre, Les femmes peuvent-elles sauver la planète ?
Cette séance a été enregistrée le 16 janvier 2023 avec la participation de Mohamed El-Khatib, Philippe Pujol, Elia Pockner et de Toufik Hakem à la modération.
C'était le podcast Procès du siècle, féminisme, genre et minorité. Une proposition conçue et mise en scène par le MUCEM en collaboration avec Grégoire Ingold.
À la modération, Judith Duportail, Toufik Hakem, Talma Desta,
Paloma Moritz, Valentine Auberti et Victoire Thuayon.
En partenariat avec Libération, Blast, Le Bonbon et Mademoiselle.
Réalisation, Copie Carbone.
Rendez-vous sur le site du MUCEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction.
Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.